Laudetur Jesus Christus.
Situation toujours très tendue dans les rues du Kenya où des dizaines de milliers de manifestants sont descendus hier pour protester contre la hausse des taxes. Les manifestations qui se sont soldées par des affrontements avec la police. Reportage à Nairobi dès le début de ce journal. Visite du chef de la junte militaire malienne au Burkina Faso voisin. Les deux pays font partie d'une alliance sahélienne et la sécurité était au cœur de leurs entretiens. Dans ce journal, nous irons aussi aux États-Unis où la violence des armes à feu est une crise de santé publique, déplore le chef de l'administration sanitaire fédérale. Nous reviendrons aussi sur ce grand débat en France hier soir qui a opposé le camp présidentiel aux deux blocs de gauche et d'extrême droite à 5 jours du premier tour des législatives. Et puis dans notre dossier, direction le Liban ce matin, pays où se trouve ces jours-ci le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Nous avons donné la parole à l'Ordre de Malte, dont l'aide, comme d'autres ONG, reste plus que jamais essentielle pour les populations.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le Kenya est en ébullition depuis plusieurs jours en raison des manifestations contre le projet de loi de finances qui prévoit de nouvelles taxes. Des dizaines de milliers de personnes, dont de très nombreux jeunes, sont descendus hier encore dans les rues des principales villes kenyanes. La situation qui a dégénéré à Nairobi, la capitale, où les cortèges se sont transformés en émeutes. Le reportage de notre correspondante Alban Tiroir.
Au sifflet, vous vous êtes là, les forces de l'ordre ont répondu avec des tirs de gaz lacrymogène et de canons à eau, puis ont tiré à balles réelles face aux manifestants qui avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte du Parlement. Linda ne cache pas son exaspération.
Nous manifestions de manière paisible, nous étions juste en train de chanter et tout à coup nous recevons des gaz lacrymogènes. Mes pieds me font mal tellement j'ai couru. La police est censée nous protéger, nous ne sommes pas armés, donc pourquoi est-ce qu'ils nous tirent dessus ?
We're not armed.
Les jeunes se sont déplacés par plusieurs dizaines de milliers avec un slogan Ruto must go, un appel à la démission du président. Aman a 24 ans, il est venu exprimer son opposition au projet de loi.
Le gouvernement s'en fiche des jeunes de ce pays. Nous sommes tellement à ne pas trouver d'emploi. C'est mon cas, je n'en trouve pas dans mon secteur, l'aviation, malgré mon diplôme. Si les autorités veulent que l'on paie plus d'impôts, il faut que nous puissions en voir les bénéfices, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Le président William Ruto a pris la parole dans la soirée et a dénoncé, je cite, des actions de criminels qui ont semé la terreur sur des innocents. Plusieurs ONG, elles, se sont inquiétées dans un communiqué des nombreuses violations des droits humains. Au-delà du bilan humain, elles ont accusé les autorités d'enlever des militants. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
Oui, selon plusieurs ONG, au moins 5 personnes auraient été tuées dans les affrontements avec la police et 31 autres blessées. L'Église catholique kenyane invite, elle, les autorités à écouter la voix du peuple et demande que les impôts soient appliqués de manière rationnelle. Le Kenya qui a envoyé hier ses premiers policiers en Haïti dans le cadre d'une force multinationale de sécurité. L'objectif, aider le pays des Caraïbes à rétablir l'ordre face aux gangs armés qui contrôlent de nombreuses zones du pays, à commencer par la capitale Port-au-Prince. Cette arrivée du contingent kenyan va apporter un soulagement indispensable aux Haïtiens, s'est félicité le président américain Joe Biden. Au sommet également de l'actualité africaine, cette visite depuis hier au Burkina Faso du chef de la junte malienne Assimi Goïta, sa première venue dans le pays, bien qu'étant membre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe Mali, Niger et Burkina. Le colonel Assimi Goïta a rencontré son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, au centre des échanges, la lutte contre le terrorisme entre les deux pays, mais au-delà de toute l'alliance. À Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a été accueilli à l'aéroport de Ouagadougou par le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Un bref échange au salon présidentiel et direction le palais présidentiel. Un tête-à-tête entre les deux hommes, on le sait. Les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme ont été au centre des échanges. Et ses dirigeants sont bien conscients qu'il faut lutter contre ces fléaux dans la région. Le colonel Assimi Goïta.
Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenariats de façade. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes.
La visite du président Goïta a duré un peu plus de 3 heures au Burkina Faso. On se rappelle que le président de la transition du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, avait déjà été reçu par le colonel Assimi Goïta en novembre 2022, un mois après son coup d'État. Ouagadougou, Lamine Traoré, pour Radio Vatican.
L'Australie attend Julian Assange, le lanceur d'alerte fondateur de Wikileaks, est dans un avion vers son pays natal après avoir passé un accord avec la justice américaine qu'il a sorti de prison. Assange qui se battait pour ne pas être livré à la justice des États-Unis qu'il poursuivait pour avoir rendu public des milliers de documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Aux États-Unis, le débat sur les armes à feu, une nouvelle fois sur le devant de la scène. Dans un rapport, le chef de l'administration sanitaire publique explique que ces armes représentent, c'est une première, une crise de santé publique. Une déclaration donc qui est nouvelle. La souplesse des lois et le faible encadrement des armes à feu, on le sait, ont des conséquences tragiques aux États-Unis où plus de 48 000 personnes sont mortes en 2022. La correspondance d'Edouard Maille.
Parmi les propositions, plus de lois pour encadrer la manière dont sont rangées les armes à feu dans les habitations, l'interdiction des fusils d'assaut ou que les médecins fassent de la prévention à chaque visite médicale sur la manière de stocker les armes. Le médecin-chef de la santé, le docteur Vivek Murthy, compare ces recommandations aux campagnes de prévention contre le tabac et les accidents de la route. Pour lui, qualifier les armes à feu comme un problème de santé publique doit permettre une approche médicale et scientifique, et aussi doit permettre de dépolitiser le débat. Depuis 2020, les armes à feu sont la première cause de décès chez les enfants et les adolescents dans le pays. Sauf que le médecin-chef ne dispose pas de pouvoir réglementaire ou contraignant. Son rôle est de mettre en avant la recherche scientifique et son annonce a été vivement critiquée par les conservateurs en faveur du droit au port d'armes qu'ils estiment être un droit constitutionnel. Le très puissant lobby des armes, la National Rifle Association, s'est également opposé à l'annonce du médecin-chef. À Atlanta, Edouard Maille pour Radio Vatican.
Malgré la guerre qui ensanglante l'Ukraine, la Russie et les États-Unis gardent un canal ouvert de discussion. Hier, les ministres de la Défense russes et ukrainiens se sont entretenus au téléphone. Pas plus de précision, un appel à l'initiative du Pentagone, a précisé Moscou. En France, dans la campagne en vue des législatives anticipées, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain, les dirigeants des trois grands blocs politiques se sont affrontés hier soir à la télévision. Face à face, le Premier ministre du président Macron, Gabriel Attal, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, et le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, qui représentait la nouvelle alliance des partis de gauche. Un débat à 5 jours du premier tour des législatives, alors que le Rassemblement national continue de caracoler en tête des sondages devant le Nouveau Front populaire et le parti présidentiel. Le compte-rendu détaillé est de Marie-Christine Bonzon.
Le débat de plus d'une heure et demie n'a pas porté sur la politique étrangère, mais sur les questions intérieures, du pouvoir d'achat à la transition écologique, en passant par les retraites, l'éducation, l'immigration ou encore l'insécurité. D'emblée, Gabriel Attal a posé le parti présidentiel comme le parti du sérieux et du crédible. Jordan Bardella et Manuel Bompard ont, eux, prôné le changement. Il faut tourner la page sur le macronisme, ont déclaré et le président du RN et le représentant du Nouveau Front populaire. Le choix est fondamental car il s'agit de rompre avec ceux qui ont failli, a lancé Jordan Bardella en appelant les électeurs à, et je cite, « ne pas être intimidés par ceux qui jouent sur la peur du RN ». Nous sommes l'alternance raisonnable et responsable, a affirmé le président du parti de Marine Le Pen, qui a par ailleurs fait valoir qu'un vote RN ferait barrage à l'extrême gauche. De son côté, Manuel Bompard a exprimé sa peur de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en France. Le Premier ministre a renvoyé dos à dos Jordan Bardella et Manuel Bompard, non pas sur des critères moraux, mais en accusant le RN et le Nouveau Front populaire de vouloir chacun se livrer au matraquage fiscal avec des augmentation d'impôts. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
L'ONU s'alarme une nouvelle fois de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, notamment sur les enfants. 10 enfants y perdent une jambe ou deux quotidiennement, selon les Nations Unies. Et 500 000 de Palestiniens souffrent de la faim à un niveau catastrophique. Et puis, la situation au Liban ne cesse d'inquiéter également en raison des combats au sud du pays entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Depuis le début de la guerre à Gaza, le 8 octobre dernier, la milice chiite redouble ses attaques contre Tsahal, qui à son tour riposte face aux craintes d'un embrasement. Le Canada a appelé hier ses ressortissants à quitter le Liban quand ils le peuvent, en raison d'une situation sécuritaire de plus en plus volatile et imprévisible. On se retrouve dans quelques secondes après cet appel aux dons.
Aide, toi aussi le pape a aidé. Manifeste par un petit geste de grande valeur symbolique ton amour et ta confiance envers le Saint-Père. Soutenons tous ensemble le Saint-Père dans l'annonce de l'Évangile et dans la charité envers ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les familles en difficulté,
les populations frappées par la guerre ou qui ont besoin d'assistance humanitaire. Va sur le site obolo.di.sanpietro.va et clique sur « Donner maintenant ».
Voilà pour cet appel à la générosité. Gros plan ce matin sur le Liban dans notre dossier. Un pays message, une terre chère à l'Église universelle et au magistère des papes. François, qui ne s'y est pour l'instant jamais rendu, a toutefois multiplié les attentions envers le peuple libanais, peuple de cette terre de cèdre qui résiste dans la tempête, disait-il. De sa lettre d'espérance au peuple libanais à Noël 2020, aux différentes journées de jeûne et de prière ou d'appel convoqués pour le Liban, à l'invitation de l'Ordre de Malte local, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, s'y trouve en visite pastorale depuis dimanche dernier et jusqu'à demain. Dans ce pays englué dans un marasme économique, social et politique, les ONG chrétiennes comme l'Ordre de Malte sont en effet essentielles à la survie des populations. C'est un sujet préparé ce matin par Delphine Allaire.
Les souffrances criées par le Liban ne peuvent laisser indifférents. 80% de pauvres, 30% de chômage, des prix multipliés par 15. Un quart de la population totale sont des réfugiés syriens. La Banque mondiale l'affirmait il y a un mois. Le pays vit depuis 2019 l'une des pires crises au monde depuis la moitié du 19e siècle. Un calvaire et un danger que ne pouvait contourner le Saint-Siège. Marwan Sernaoui, président de l'Association libanaise des chevaliers de Malte, se réjouit de ce retour pastoral du secrétaire d'État après une visite éclair le 4 septembre 2020 après l'explosion du port de Beyrouth.
Nous sommes dans un pays qui est en train de perdre son identité, qui a déjà perdu l'essentiel de sa souveraineté. Et il est donc important que le Saint-Siège puisse être témoin de l'action de l'Ordre de Malte qui est à la base au Liban, afin qu'il puisse toucher du doigt ce dont lui parlons quand nous avons l'occasion de le rencontrer. Au Liban, terre sainte, où la souffrance est omniprésente. Il est venu et il est là. Il a visité nos activités au nord. Tout ça a été très émouvant. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'essentiel. C'est l'amour, l'humilité au service de l'homme et de sa dignité.
Restaurer cette dignité bafouée est la mission que s'attache l'Ordre souverain de Malte au Liban sur le plan social, sanitaire ou alimentaire dans cet appauvrissement généralisé avec une livre libanaise dévaluée, les ménages consomment un tiers de la quantité de viande et de fruits de mer qu'ils consommaient 10 ans plus tôt, celle de pain et céréales, denrées abordables, elle a bondi de 20%. Oumaïma Farah, déléguée au développement de l'Ordre de Malte Liban, nous explique donc tout l'intérêt des 6 centres agro-humanitaires lancés par l'Ordre en 2020.
Le Liban, après la guerre, a favorisé les importations au lieu de se lancer dans la restructuration du secteur agricole. Et ce qui fait que beaucoup de familles d'agriculteurs ont délaissé l'agriculture. Alors qu'à la base, en fait, le Liban est un pays agricole. Nous avons commencé fin 2020 avec un projet pilote de 350 petits agriculteurs. Aujourd'hui, 2 ans après, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire libanais avec ce qu'on appelle des centres agro-humanitaires qui offrent des services pour les petits agriculteurs. Ces terrains où ces centres ont été construits nous ont été donnés par des congrégations religieuses pour une période de 20 ans. Aujourd'hui, on peut dire que nous couvrons à travers nos services à peu près 70% des terres agricoles du Liban.
Cette attention portée à la question agroalimentaire comme sanitaire avec la visite ce mercredi du cardinal Parolin aux centres médico-sociaux gérés par l'Ordre s'intègre dans la perspective de développement humain intégral indispensable à une réhabilitation économique progressive que l'État ne parvient à fournir. Pour Oumaïma Farah, il s'agit donc de pallier ces carences sans s'y substituer.
Nous ne cherchons pas à remplir le rôle de l'État. Ce que nous cherchons à faire, c'est de pouvoir maintenir la population, lui offrir au moins ses besoins les plus basiques et lui restaurer la dignité qui a été complètement bafouée suite à la crise. Ces 80% de la population dont on parle, ce sont pour la plupart des personnes qui venaient de la classe moyenne. Aujourd'hui, la classe moyenne n'existe plus au Liban. L'État a failli et il est toujours en état de faillite grâce aux ONG et grâce surtout à la communauté internationale, comme notamment pour l'Ordre de Malte Liban, nous avons eu l'appui du gouvernement allemand, mais aussi du gouvernement français, du gouvernement de Monaco, de la Hongrie, parce que nous ne vivons que de dons. Et donc, c'est important pour pouvoir subsister, surtout dans la santé, à retenir les médecins pour qu'ils ne quitte pas.
Cette œuvre sanitaire de l'Ordre qui remonte aux croisades n'est pas qu'humanitaire mais religieuse, rendant gloire à Dieu par ce service des plus faibles, a rappelé lundi le cardinal Parolin. Le secrétaire d'État du Saint-Siège qui rencontre ce matin le Premier ministre sortant Najib Mikati note l'absence d'une voix chrétienne d'importance, celle d'un président du Liban, fonction traditionnellement occupée par un maronite selon le partage confessionnel du pouvoir. Il déplore une absence qui pèse beaucoup en ce moment grave pour le Moyen-Orient.
Voilà le travail de l'Ordre de Malte au Liban, sujet préparé par Delphine Allaire à la une du dossier ce matin de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans quelques minutes, vous pourrez suivre en direct sur notre site et notre page Facebook l'audience générale du pape François. Excellente journée à tous.